Je suis heureux, réjoui du mystère de l'Église. Réjoui d'être avec vous ce matin à Wavrin. Et heureux d'écouter ensemble la parole de Dieu. Merci beaucoup, Sylvain. Vendredi soir, on a parlé de la prière, comme Rob l'a rappelé. Et je vous invite ce matin à aller plus loin dans cette réflexion de la prière qui transforme nos vies, de la relation à Dieu qui transforme nos vies. Toute la prière est une affaire de relation avec Dieu. Et c'est plus que la prière, la Sainte Cène, l'écoute de la parole, le mystère de l'Église. Ça transforme, ça change nos vies. Et j'aimerais prendre quelques textes bibliques pour prendre des illustrations concrètes et partager quelques pistes avec vous ce matin sur est-ce que votre relation à Dieu, est-ce que ma relation à Dieu transforme des choses, impacte ma vie réellement. On va pas trop parler de l'extérieur si je porte du fruit. On va pas trop parler ce matin des défis, des projets que Dieu peut nous donner. Mais on va se concentrer un peu pour une fois. C'est moins mon habitude, mais je crois vraiment que j'ai à cœur de vous partager un certain nombre de réflexions sur la relation à Dieu qui nous transforme et qui produit des changements dans nos vies personnelles. Alors pour ça, on va lire plusieurs textes bibliques au départ et des situations concrètes de personnes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour un premier texte dans Exode, au chapitre 34, déjà avec Moïse, qui vivait cette relation à Dieu. Il nous est dit en parole qu'il n'y avait personne qui parlait avec Dieu comme Moïse, comme parle un ami avec son ami. Donc on va voir si pour cette relation dans l'Ancien Testament, d'un homme qui parle à Dieu comme à son ami, est-ce que ça transforme quelque chose dans la vie personnelle de Moïse? Pas dans le peuple, pas dans les projets, mais dans la vie personnelle de Moïse. Alors, je vous propose de prendre Exode 34, versets 29 à 35. Exode 34, à partir du verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les deux tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit alors un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre à nouveau pour parler avec l'Éternel. Un deuxième texte dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, 1 à 20. Un texte un petit peu long, mais c'était difficile de le couper. J'ai bien essayé de raccourcir, mais je crois qu'il faut lire la totalité. 1 Samuel 1, les 20 premiers versets. Il y avait un homme de Ramtaï Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Éliu, fils de Théohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, il se trouvait les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéé, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter à ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand, femme, seras-tu dans l'ivresse? Fais donc passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Encore un texte d'un acte, très court celui-là. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'à Voivrin, on vous reconnaît pour dire cela? Ils sont un peu bizarres, là, qui vont à la communauté protestante évangélique Source de Vie, mais on les reconnaît pour avoir un contact avec Jésus. Et qu'est-ce qui ferait que les gens pourraient dire ça? Qu'est-ce qui fait dans votre attitude, dans votre vie, dans votre programme, dans vos horaires, dans votre agenda, dans votre regard, votre peau, qui fait que des gens pourraient dire, ceux-là, ils sont un peu bizarres, mais, je crois pas, pas l'important, mais ils sont avec Jésus. C'est des gens qui sont avec Jésus. Des gens peuvent dire, ils sont avec Le Pen, des gens, ils sont avec Chirac, il y a des gens qui sont dans la science scientifique, il y a des gens qui sont amis du maire, il y a des gens qui sont ennemis de leurs voisins. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ceux-là, je ne crois pas en Dieu, mais ils sont avec Jésus? Ils s'illusionnent, ils se trompent. J'en ai rien à foutre. Mais ils sont avec Jésus. Ou alors c'est formidable, je les envie, ils ont quelque chose. Mais même sans aller jusque-là, juste, je ne suis pas d'accord même, je ne comprends pas. Mais ils sont avec Jésus. Est-ce que les gens savent ça de vous? Alors, ça se voyait comment? Est-ce que vous pouvez me dire? J'ai toujours peur de donner la parole aux gens parce qu'après le temps, il file. Donc on va essayer d'être court. J'ai quand vous donner un peu la parole parce que j'aime bien dialoguer avec vous. Ça se voyait comment? Qu'est-ce qu'il est dit ici pour eux? Pourquoi ça se voyait qu'ils avaient été avec Jésus? Est-ce que le texte mentionne ça? Quoi? Quoi leur visage? Non, ça c'est Moïse. Montrez-moi, lisez la Bible, je ne sais pas moi. Acte 4, je reprends. On va lire parce que maintenant vous me troublez, hein. Moi j'ai pas noté ça alors maintenant. Ah voilà, exactement. Assurant. Parce que c'était des gens simples. Bon, est-ce que vous êtes des gens simples, des gens compliqués, des gens de grands intellectuels, des grands philosophes, des grands. Est-ce que vous marquez, est-ce que vous avez reçu des prix Nobel ici? Qui sont ceux qui ont la Légion d'honneur? Vous pouvez vous dire. Il a levé la main. Bon. T'as la Légion d'honneur. Tu peux me montrer le petit truc rouge ici sur ton. Peut-être certains, ils ont une auréole ici. Ou la Légion d'honneur. C'était Robert. Ah, il est en auréole. Hein? D'accord. On la voit pas tous les jours. Super. Vous voyez, c'était des gens simples comme nous. Ça se voyait à leur autorité. Extraordinaire. Est-ce que vous avez, auprès de vos voisins, auprès de votre employeur, il dit, ces gens-là, c'est un bon électricien, Rémi. Mais c'est pas le chef des électriciens de France, il a pas fait des inventions extraordinaires, etc., etc. Il y a des bonnes mères de famille, extraordinaires, c'est bien, elles ont peut-être pas reçu la médaille de la famille, mais j'avais parlé à l'Élysée, mais est-ce qu'on peut être reconnu parce qu'il y a une autorité différente dans nos vies? Alors on va être très clair, ça se voyait eux par rapport à l'autorité. Mais les deux personnages qu'on a lus avant, l'histoire de Anne et l'histoire de Moïse, on va se poser la même question que pour les disciples. Eux, est-ce que vous vous souvenez comme ça de mémoire, dans le texte qu'on a lu, à quoi ça se voyait, eux, qu'ils avaient autorité? Alors quelqu'un a déjà dit la réponse avant pour les disciples. Pour Moïse, c'était la peau qui brillait. Et Anne, c'était quoi? Anne, il a dit quoi pour Anne? Son contact avec Dieu, sa prière avec Dieu, ça a fait quoi? Plus la même. Voilà. Les gens disent, c'est plus la même. Donc, voyez, les disciples, ils sont avec Jésus, ils ont une autorité. Moïse, il donne la loi, il brille. Et Anne, juste témoignage des gens, c'est plus la même. On ne sait pas quoi. C'est plus la même. On ne la reconnaît pas. Elle a changé. Est-ce que vous pouvez me dire la raison maintenant? On a vu pour les disciples, la raison c'est. Donc, la conséquence, ça se manifestait. Autorité, mais pourquoi? La raison, pourquoi? Pourquoi ils avaient cette autorité? Parce qu'ils avaient été avec Jésus. D'accord. Moïse, pourquoi il avait cette autorité? Voilà, présence de Dieu, carrément, connecté avec Dieu. Être avec Jésus, humain, homme, sur la terre. Présence de Dieu, hyperspie, c'est la parfaite divinité et humanité. Vous voyez, vous avez les deux trucs qui changent. L'humanité de Jésus change les gens, la divinité de Dieu change Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Anne, qui est comme nous, hein, c'est ni Moïse, ni les disciples qui sont avec Jésus. Anne, elle est comme nous. Nous, on n'est pas Moïse, on n'est pas Jésus. On n'est pas les disciples de Jésus qui sont avec lui concrètement il y a 2000 ans. On est Anne, nous. Et elle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi son visage n'a plus été le même? Certainement. C'est pas ce que le texte nous dit, mais certainement. Après. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Avant, oui. Mais après, quand il est dit, son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, verset 18, la solution. Non, mais tout ce que vous dites a raison. Mais je vous demande ce que la Bible dit. Pardon? Elle avait les rives, mais c'est pas ça qui a fait que... Qu'est-ce que c'est marqué? Lisez le verset 18. Lisez. Allez, Robert, lis-nous à haute voix, écoutez bien tous, le verset 18, ce que la Bible dit.
D'accord. Elle dit que ta servante obtient ta faveur, et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea. Voilà.
Ah, il a trouvé!
Et son visage ne fut plus le même.
C'est ça, je sais pas compliqué comme niveau intellectuel, non? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle a bouffé, excusez-moi, elle a mangé. Elle était dans la dépression. Elle s'est remise à manger, c'est tout. Faut pas être trop spirituel. Vous voyez, vous avez Jésus, parfaite humanité de Dieu. On est avec Jésus, avec son humanité, on marche avec lui, il y a notre quotidien, on reçoit l'autorité de Dieu. Parfaite divinité de Dieu, toute puissance, notre visage brille, c'est quelque chose de surnaturel. Mais ça, c'est des exceptions, mes amis. C'est des expressions théologiques de l'humanité et de la divinité de Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, elle est déprimée, elle dépérit, elle prie, elle épanche son âme, tout ce que vous avez dit est juste. Mais quand son visage n'est pas le même, cherchez pas des spirituels, c'est pas un ange qui lui a fait guili-guili, c'est pas, elle était pas encore enceinte, etc., etc. On y viendra d'ailleurs après, comme elle était enceinte, c'est pas comme Marie, hein, c'est pas un ange qui est venu, hein. C'est pas le Saint-Esprit qui est venu, hein. Ils ont fait des choses, des crac-crac, normal. Hein? Voilà. Là, Anne, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Juste, elle remange. Elle était déprimée. Elle est rentrée avec cette parole de Dieu, ce contact avec Dieu, qui lui a redonné de l'appétit. Elle a mangé. Et quand vous êtes maigre, décrépiré, et que vous mangez, il n'y a pas besoin d'un ange, il n'y a pas besoin de la divinité de Dieu ou de l'humanité de Jésus-Christ. Il y a juste que vous allez mieux et que ça soit, et son visage ne peut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle a remangé. Elle a retrouvé l'appétit, c'est tout. Et vous voyez que c'est extraordinaire. On peut trouver dans le contact la puissance transformatrice de Dieu. Ayez un contact avec le Dieu vivant puissant qui fait que votre visage rayonne. Ça peut être autre chose, ça peut être le bout du pied qui rayonne pour votre orgueil, comme ça personne ne voit, c'est mieux. C'est juste quand vous enlevez votre chaussette le soir. Waouh, ça brille! J'ai été en contact avec Dieu, mais il n'y a personne qui saura. Parce que le visage rayonnant, j'ai peur un peu pour vous et pour votre orgueil à Voivrin. Parce que ce n'est pas seulement pour vous, mais si on dit même qu'à l'église de Voivrin, il y a un homme ou une femme qui a le visage qui brille, on dit ça est à cause de Robert. Ouh là là, et depuis qu'il est pasteur là-bas, avec Jean-Luc, ça s'était jamais passé, mais avec Robert, il m'a montré le bout de sa chaussette. Vous voyez, il y a ceux qui ont les ongles incarnés, puis il y a ceux qui ont l'orteil qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui peuvent briller dans nos vies, qui peuvent être surnaturelles, j'y crois. C'est des attouchements de Dieu, c'est une guérison, c'est un démon chassé. Ça. Mais c'est des exceptions, c'est des signes du royaume. Mais la vie de tous les jours entre les disciples avec Jésus et avec Moïse avec Dieu, c'est juste Anne. Vous n'allez pas bien avec Dieu, vous pouvez retrouver l'appétit, vous pouvez retrouver un goût de vivre. C'est très concret. Après, elle a encore eu des problèmes, elle a encore eu des maladies, mais là, elle a simplement remangé. Donc voilà quelque chose de très encourageant, très concret. Et il y a une petite note que je vous dis, c'est l'histoire du pied, le bout de pied d'orteil a brillé plutôt que le visage de Moïse. Il y a une petite note dans ma Bible, c'est marqué, et Moïse ne le savait pas. Vous avez aussi ça dans vos Bibles? Moïse ne le savait pas. Je vais vous dire une chose, là, super pour les charismatiques. On n'est pas obligé de se rendre compte qu'on rayonne quand Dieu nous touche. C'est peut-être même mieux si c'est les autres qui s'en rendent compte. Oui. Cette petite phrase, Moïse ne le savait pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait certains télévangélistes, certains grands orateurs qui ne le sachent pas, parce qu'ils le savent beaucoup. Voilà, ça c'est ma petite pique, mais fermez la parenthèse. Anne, par contre, si Moïse ne se rendait pas compte qu'il rayonnait, Anne, elle, se rendait vraiment compte qu'elle avait une vie compliquée, triste, embrouillée, avec plein de soucis, plein de problèmes, comme on peut avoir. Alors Anne, quelle était sa vie? Eh bien, elle savait bien parce que le texte biblique nous dit qu'année après année, c'était la même histoire qui se reproduisait. Année après année, sa situation humaine est bien concrète de ce qu'elle vivait. Frustration, jalousie, humiliation et même du pasteur. Non seulement sa rivale, c'est entre deux femmes, c'est pas très drôle, hein. Entre deux hommes, c'est des fois plus clair, mais il y a des avantages, des inconvénients, le masculin, le féminin, vous connaissez. Mais deux femmes qui se font la gueule et qui se cherchent des noises, c'est terrible, hein. C'est jusqu'à la mort. Terrible. Et là, c'était le cas. En plus, deux épouses pour un seul homme, hein. Déjà, quand c'est pas des épouses, c'est compliqué. Deux femmes dans le voisinage, deux femmes au travail. Mais deux femmes mariées d'un même mari qui se jalousent et qui s'entendent pas et qui se moquent l'une de l'autre, alors que Anne est préférée, déjà jalousie, mais que l'autre a des enfants et pas Anne, vous voyez la complexité, hein. Pire que ça, le pasteur, dans la retraite où elle va pour prier, lui dit, tu es une femme ivre. Vous vivez l'enfer à la maison. Vous allez rencontrer Dieu dans un haut lieu de prière, une maison d'adoration, une maison de prière. Là, vous allez à Fadelbrunin, là. Vous arrivez là-bas, vous êtes triste, vous priez, vous dites, enfin, je suis libre, je peux prendre un temps de respiration et tout ça. Et vous avez le chef du projet de la maison d'adoration qui vient et vous dit, vous pourriez vous tenir un petit peu mieux, madame, ici, on est mieux élevé. Là, vous êtes saoul, vous vous livrez à des... Ça va pas, vous voulez bien. Encore le rejet. Il y avait déjà la jalousie. Il y avait déjà la stérilité dans sa vie. Elle vient à la maison de Dieu pour trouver le rejet de celui qui a autorité. Ça fait beaucoup. Il y avait des petits bricolages d'Elkana. Le texte nous dit, il essayait, un bon mari, de faire des compensations humaines. Il aurait peut-être mieux fait de virer Pénina ou de la remettre à l'ordre ou d'avoir une autorité pour lui dire, maintenant tu arrêtes de mépriser. Il ne veut pas faire ça. Mais il compense. Il laisse Pénina faire, comme nous dans nos vies. On laisse un peu des choses faire. On sait bien que c'est pas juste, c'est pas bien, donc on compense, hein. tel ou tel dans l'église, il fait des choses pas très justes. Bon, alors, on va compenser, hein, on va corriger au lieu de confronter. Il ne confronte pas Pénina. Mais il arrange. Mais ça ne satisfait pas Anne. Il donne le double des portions. Mais c'est super, il pourrait dire, mais quand même, je te donne le double des portions qu'à Pénina. Vous savez ce que ça faisait, hein? Ça renforçait la jalousie et la rivalité pour Pénina aussi. Là, c'est la victime, Pénina. C'est qu'elle voit qu'elle reçoit le double autre. C'est pas juste. Donc, il veut arranger par amour. Et il complique la situation. Il donne au double. Puis, il lui dit, mais tu m'aimes pas? Je vaux pas mieux pour toi que 10 fils. Tu as besoin d'un fils, mais tu as un mari extraordinaire qui te préfère à Pénina. Mais Pénina, en disant ça, il complique la situation. Il veut arranger. Mais rien ne va. Donc, nos compensations humaines, il ne faut pas essayer. Hein, il ne faut pas essayer d'arranger les choses. Il ne faut pas essayer de voir la situation. Il faut oser affronter. Et alors là, même son attitude formidable de Marie ne rend rien. Dans cette situation, frustration, jalousie, incompréhension, etc., le verset 7 nous dit ceci. Anne se mortifiait et se lamentait à la maison, ne voulait plus manger et restait chez elle. Elle ne voulait plus monter à la maison de l'Éternel parce qu'elle était trop triste. C'est bien ça que vous avez dans vos bibles? Vous écoutez, vous suivez, ça va? Je vous redis. Anne était trop triste, se lamentait à la maison et ne voulait plus monter à la maison de l'Éternel. C'est ça? Non? Vous suivez? Verset 7. Vous n'avez pas ce verset que je viens de citer, verset 7 dans vos bibles? Tu peux le lire? Jacques. Verset 7.
Cela se produisait, cela se reproduisait chaque nuit. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait.
Donc, toutes les fois? Donc, elle reste à la maison, elle se lamente, elle ne va plus. Donc le contraire exactement de ce que je vous dis. Et vous ne réagissez pas, là, je vous dis qu'elle se lamentait, qu'elle pleurait à la maison, qu'elle ne voulait plus, j'en ai marre, je ne veux plus monter à la maison. Mais tous nos chrétiens font comme ça quand ils ont des problèmes. Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des différences. Moi, quand j'entends les gens, ils se lamentent, ils pleurent, ils ont des problèmes, ils sont au chômage, ils ne veulent plus venir à l'église, ils ne veulent plus de Dieu, ils ne comprennent plus, ils se révoltent, ils se plaignent, ça ne va plus, les frères chrétiens se moquent de moi, quand on a des conflits, on ne va plus à l'église, et puis voilà. Hein? On est marre du pasteur, j'en ai marre des frères et sœurs, et puis de toute façon, Dieu ne me répond jamais, et puis je pars, je fais mon caca nerveux, ou je change d'église, ou je vais. Ouais. Anne, pas du tout. Anne est dans la frustration, la jalousie, la difficulté, etc. Il nous a dit qu'au contraire, elle montait chaque année. Chaque fois, ça se reproduit. Ça veut dire que chaque année, dans sa dépression, dans le fait qu'elle mangeait pas, qu'elle était déprimée, qu'elle pleurait, etc. Chaque année, elle montait à la maison de l'Éternel. Et il y a quelque chose de terrible. Répété 2 fois au verset 5 et 6, qu'il avait pourtant rendu stérile. C'est-à-dire, ce Dieu-là que je confesse qu'il me rend stérile, je monte l'adorer et le remercier chaque année. Et c'est une vision très précise par rapport au problème du mal. Je ne vais pas régler le problème du mal ce matin, vous en doutez bien. Mais on peut voir plusieurs choses. Elle pourrait dire, Satan est méchant, il me rend stérile. Moi, je cours à la maison de l'Éternel dans sa présence. Ou, je ne comprends rien, très philosophique, du mystère, du mal, de tout ça, qui est responsable de quoi, etc. Mais j'aime mon Dieu, je lui fais confiance malgré tout. Et c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, celui-là, il m'a rendu stérile et je monte année après année l'adorer. Vous vous rendez compte? Son explication du problème du mal. Hein? C'est pas, c'est l'ennemi qui est méchant, je vais le chasser, je vais refuser cette stérilité au nom de Jésus et je vais vers Dieu qui lui veut me donner la vitalité, la fertilité, etc. Ni philosophant sur la question du mal entre deux, c'est ni ou est. Dieu est dans le mal, mal est dans Dieu, Dieu est souverain donc il est au-dessus, donc le mal est dedans. Hein? Non, c'est Dieu est Dieu. Donc, je suis stérile, c'est sa faute. Mais je vais l'adorer tous les années. Incroyable. Je vais monter à la maison de l'Éternel, répéter 2 fois, pourtant, il m'a rendu stérile. Elle aurait pu rester chez elle aurait pu rester dans ses larmes, rester dans son amertume, rester dans sa frustration, se plaindre de sa rivale, avoir 1000 raisons de ne pas monter à la maison de l'Éternel. Verset 9, alors que 2 fois on vient de répéter que Dieu l'a rendue stérile, Anne se lève comme chaque année, encore cette année, elle monte rencontrer Dieu. Elle sait que cette rencontre transformatrice avec la présence de Dieu, simplement il y a la... Avec les années, je pense que les autres fois, c'est cette fois-là qu'on raconte l'histoire, donc je pense que les autres fois, elle n'a pas été traitée de femme saoule. Donc ça veut dire que La souffrance est, après année et après année, tellement accumulée que cette fois, ça déborde vraiment. Mais le texte nous dit qu'elle monte chaque année. Elle prie, elle pleure devant Dieu, elle parle à lui. Verset 15, je répands mon âme. J'aime tellement cette expression. Je répands, je vide, j'étale mon âme devant l'Éternel. C'est beau de s'ouvrir et d'expérimenter toute l'étendue de notre malheur devant Dieu. Toute l'étendue. Ça, c'est la prière. On revient vendredi soir. Ça, c'est une forme de prière. Étaler toute l'étendue de notre malheur, de notre souffrance, de nos questions devant Dieu. Verset 12 nous dit, elle reste longtemps en prière devant l'Éternel. Longtemps. Longtemps. Ça prend du temps. Anne monte dans la présence de Dieu. Elle se lève. Anne s'exprime. Elle persévère longtemps. Donc, elle ne reste pas là où elle en est. Vous êtes invité à dans vos difficultés, pas rester là où vous en êtes, quitter, monter, se lever, aller et persévérer longtemps. Tout l'inverse du fatalisme dépressif, de la nonchalance, du nombrilisme, de se tourner autour. Elle n'essaye pas d'expliquer sa stérilité reçue de Dieu. Elle n'essaye pas de philosopher sur le problème du mal. Elle n'essaye même pas de trouver des justifications théologiques à son état, ni même d'excuses à Dieu. Elle sait même pas de dire Dieu t'es pas sympa quand même ça. Elle dit même pas bon Dieu je comprends tu y peux rien, tu peux pas donner la vitalité à tout le monde, tu peux pas donner la fertilité à tout le monde. Je suis tombé sur le mauvais numéro. Voilà Dieu m'échec tu m'aimes quand même. Elle dit pas ça. Nous on essaye des fois hein, de trouver même des excuses à Dieu. Elle explique pas, elle ne dit rien, elle ne justifie pas, elle répond juste son malheur. Et après tout ça, l'exaucement vient. Comment ? Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, verset 19 dans vos Bibles. Qu'est-ce qu'ils font après leur rentrée ? Qu'est-ce que le verset 19 nous dit ? Elle demande un fils depuis des années, elle s'est répandue devant l'Éternel, ils rentrent chez eux, qu'est-ce que nous dit le texte ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient ? Ils font plus fort ! Ils font crac crac ! C'est ça que la Bible nous dit, hein. Quand il dit, il a connu sa femme, ça veut pas dire qu'il la connaissait pas avant, puis qu'il l'a découverte, hein. Non, parce que certains qui comprennent pas le langage biblique pourraient dire, comme son visage n'était plus le même, ah, il l'a reconnu. Non, reconnu, c'est connu encore, et connu, c'est faire crac-crac, d'accord? Hein. Donc, ils prient, mais ils couchent ensemble, ils s'attendent pas à ce que le Saint-Esprit couvre Anne, comme Marie, mais ils font ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça vous rappelle pas l'histoire de la pêche miraculeuse, mais Seigneur, on a déjà mis les filets tant de fois et on n'a rien ramassé. Mais sur ta parole, on jettera encore le filet. Et ben là, on peut dire, ben sur ta parole, on fera encore crac crac. C'est ça? C'est ça qui est dit. On est monté, on a cru, on a persévéré et on a encore couché ensemble parce qu'on croit que tu vas donner et que ça va pas passer comme ça. On a fait. Et ça montre tellement l'humanité de la nécessité de la part de l'homme. Dieu fait sa part. Dieu guérit, Dieu touche, Dieu intervient. Mais ça ne remplace pas notre part, notre responsabilité. Dieu fait la sienne, le miracle de la stérilité, mais Anne a dû se lever, a dû prier, épandre son âme devant Dieu, et puis aussi coucher ensemble avec son mari pour cueillir. Vous voyez cette patte humaine et cette patte divine qui sont ensemble pour obtenir l'exaucement de Dieu. Je fais juste une petite parenthèse pour une note. Vous connaissez ce fameux chant, hein Jacques, tu le connais, qui dit « Tu donnes et tu reprends ». Et c'est un chant que j'ai de la peine à chanter. J'aime beaucoup ce chant, il a une très belle mélodie, il a une très belle parole. Mais ce petit bout « Tu donnes, tu reprends », béni soit le nom du Seigneur, vous savez, c'est comme un peu Job. Hein, « Tu m'as tout pris », eh ben, sa femme lui dit « Révolte-toi », lui il dit « Non, je bénis le Seigneur ». Ce texte vient de Job, hein. Tu donnes, tu reprends, que le nom du Seigneur soit béni. Des fois, on le dit un peu facilement. Hein, tu reprends mon épouse, tu reprends mes enfants. Oui, Seigneur, que le Seigneur soit béni. Hein, un peu facile. Et bien là, c'est la première fois que je peux chanter ce chant de tout mon cœur quand j'ai étudié ce texte. Seigneur, tu donnes la stérilité et tu la reprends. Ça, c'est formidable. Seigneur, tu donnes la dépression et tu la reprends et tu l'arrêtes. Seigneur, tu donnes des difficultés pour ma transformation, tu les permets tout au moins, mais tu les reprends et tu les arrêtes. Pourquoi on a tout? Moi, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas vous comme vous êtes. Moi, j'ai toujours entendu ce chant dans le côté négatif. Vous aussi, hein, je vois. Tu reprends, tu risques de me reprendre mon enfant, tu risques de reprendre mon ministère, tu risques de reprendre ma maison, tu risques de reprendre... Alors oui, Seigneur, je suis bien obligé de dire ça parce que je suis chrétien, donc on est un peu constipé, serré, dit oui, Seigneur, je dirais quand même bénissant. Mais pourquoi on ne pourrait pas chanter ce chant aussi dans l'autre sens? Oui, tu donnes ou tu permets qu'il y ait des actions sur cette terre de mal, de chômage, de difficultés, de conflits, mais tu reprends, tu arrêtes ces choses. Alléluia. Amen. Ça, on peut se réjouir. Voilà, fin de la petite parenthèse. Job, sur cette question-là, dit « Je reconnais que tu es Dieu. J'ai parlé sans le comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. » Job dit même « C'est pourquoi je me repens. » Job arrive à une attitude de conversion, de changement du cœur, de transformation là encore. Vous voyez, les disciples transformés, l'autorité, Moïse transformé, la peau qui rayonne, Anne transformée parce qu'elle mange, parce qu'elle rencontre Dieu. Et tout ça nous amène à réfléchir sur le sens de la vie et on prend Job qui est transformé intérieurement, profondément, dans toutes ces questions de vie. S'il y en a un qui a vécu des épreuves et des circonstances, c'est Job, c'est même le type même, hein, c'est une typologie, c'est-à-dire quelque chose qui nous résume toute la souffrance humaine et qui est là pour nous dire la conclusion de la conclusion, là encore, transformée. C'est pas la peau qui rayonne, c'est pas une nouvelle autorité, bien que certainement Job a eu une nouvelle autorité après son expérience. Ce n'est pas la stérilité de Job qui est guérie là, mais ça va plus profond, c'est son cœur qui est transformé. La plus grande des transformations dans la prière, dans la relation à Dieu que vous pouvez vivre, c'est celle de Job. Seigneur, je sais que je ne comprends pas, que je ne sais pas. J'ai noté, on peut tous comprendre qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une belle humilité. C'est un bel acte quand j'arrive à ça. Comme Job, mon visage qui ne fut plus le même, comme Anne, c'est de reconnaître avec une autorité nouvelle dans ma relation avec Jésus que Seigneur, j'ai parlé de choses trop grandes qui me dépassent. C'est pourquoi je me repens. La prière de repentance qui est le sommet de la relation avec Dieu. J'arrive proche de ma conclusion. Donc nous sommes invités dans un premier temps à ne pas justifier, expliquer notre situation, mais plutôt réagir, agir, se lever comme Anne, avec Anne, se lever, rencontrer Dieu encore et encore, et faire ce que nous avons à faire humainement, si c'est rembourser une dette, si c'est se réconcilier avec quelqu'un, si c'est retrouver de l'amour dans son couple, réconcilier avec son enfant, c'est notre part. 2 Corinthiens, pour s'approcher de la conclusion, je vous invite à prendre 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. On va... terminer, s'arrêter sur ce chapitre 3 de Corinthiens, lisons plusieurs versets, 7 à 11 tout d'abord. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur pierre, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été seulement passagère, combien le ministère de l'Esprit-Saint ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation de la loi a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Un texte un peu compliqué à comprendre comme ça et à lire comme ça. Je vous invite à le reprendre à la maison et à le méditer tranquillement, à le travailler, à... voilà, réfléchir, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Mais ce que ce texte nous dit, c'est quand Moïse, on revient à notre texte d'origine, a reçu la loi de Dieu, son visage a rayonné, et ça a été glorieux. Et pourtant, c'était juste pour recevoir des commandements, et c'était juste passager pour un temps. Si, nous dit l'Écriture, Moïse a eu sa peau qui a rayonné juste en recevant la loi, elle, tu ne feras pas, tu pourras, voilà le commandement. Ce texte de Corinthiens avec Paul nous dit, mais alors combien plus vous qui recevez le Saint-Esprit pour vous guider tous les jours, pour être avec vous, ça doit être bien plus glorieux, alors que c'était déjà glorieux puisque son visage rayonnait. Ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent l'est bien plus. Alors si on avait le temps, mais on l'a pas, Je vous ferai travailler maintenant, on se quitterait un moment en retraite d'église, et je vous dirai, essayez de noter dans vos vies et dans la conception chrétienne tout ce qui est glorieux. Et la Bible nous dit que c'est passager. Des miracles, des grands orateurs, des grandes conventions, des bons moments de bénédiction, tout ça c'est glorieux, mais c'est passager. Et après on aurait à écrire chacun qu'est-ce qui est plus glorieux que ça et qui est permanent. Et ça c'est intéressant de voir cette comparaison. Nous cherchons, je crois, dans nos vies chrétiennes aujourd'hui, ce qui est glorieux, et c'est bien, mais qui est passager. On aimerait nos églises qui se remplissent, on aimerait que les solutions soient trouvées pour les gens, on aimerait les conversions, on aimerait... Tout ça c'est glorieux, mais c'est passager. Parce qu'on va quand même mourir. On va quand même une église... C'est triste en France, hein, on a des églises qui vivent des périodes extraordinaires, puis ça retombe. On a des réveils, puis ça retombe. Et ça sera toujours comme ça jusqu'à notre dernier souffle. Hein. Parce qu'il y a des temps dans la vie. Il y a des temps où ça va mieux, il y a des temps où ça va moins bien, il y a des temps où on est jeune, il y a des temps où on est vieux. Et puis, il faut bien passer par ces étapes. C'est bien les saisons. Hein. Chaque année, il y a l'hiver aussi. Hein. Il n'y a pas que des étés. Et c'est la même chose. Mais c'est passager. Donc, nous sommes invités à rechercher ce qui est plus glorieux. Et qu'est-ce qu'alors, et c'est ma conclusion, qu'est-ce qui est plus glorieux? Eh bien, le verset 16 de ce même chapitre 3 nous le dit. Je vous invite à lire le verset 16, 18 et 4, 18. Verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça vous rappelle quelque chose? Moïse qui ôtait son voile quand il entrait. Vous voyez, c'est tout lié, hein. Il faudrait approfondir toutes ces choses. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et encore verset 4, 18, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez ça? Vous avez un tout, vraiment une explication complètement, une construction dans tout ce chapitre 3 et chapitre 4 de Corinthiens, qui reprend les textes qu'on a lus de Moïse, qui reçoit la loi, et qui dit, c'était glorieux, dans vos vies vous avez des choses glorieuses, mais il y a des choses plus glorieuses et qui sont permanentes, c'est la conversion des cœurs. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque nous sommes changés, alors là, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est le voile qui est levé, vous voyez, c'est l'inverse qu'avec Moïse, lui, il devait mettre le voile, là, c'est le voile qui est enlevé parce que le cœur se convertit et nous contemplons, et la boucle est bouclée, nous reflétons pour nos voisins. J'ai commencé par le début en disant pour vos voisins, mais est-ce qu'on voit que, eh bien, la Bible nous dit, si ton cœur se convertit, le voile est levé, tu reflètes Dieu. Et ça peut se voir. Vous voyez qu'on a fait le tour, c'est la transformation, la prière, la relation transformatrice de Dieu avec nous qui fait que d'autres peuvent voir. Et ça, mes amis, plus que les miracles, plus que l'onction, plus que les plumes, l'or, tout ce que vous voulez, toutes les manifestations, le rire, le tout ça, les démons, plus que tout ça qui sera passager. Ça dure pour l'éternité. Votre transformation, ma transformation, ce que Dieu inscrit maintenant dans vos vies, aura une conséquence pour l'éternité. Et ça dure à jamais. C'est pour cela que Dieu permet parfois l'épreuve, la difficulté. Je peux mieux la vivre. Et vous savez, il y a le texte qui est un peu facile à dire quand quelqu'un souffre, hein, mais c'est pas grave, ça transforme en un emploi éternel de gloire, et puis c'est pas digne d'être comparé avec le monde à venir, tes petites souffrances actuelles. Oui. C'est comme ce qui est dit, c'est qu'au fond, toutes ces choses, Dieu permet qu'elles nous forment et qu'elles nous transforment pour quelque chose de plus glorieux, qui est permanent, notre transformation. Et cela nous permet alors de nous désinstaller de nos frustrations, comme Anne, de nos stérilités, de nos manques d'appétit, de nos fatigues, de nos douleurs face aux jalousies qui reviendront toujours. Même dans l'église, nos petites histoires, tout ça, ça me permet de me désinstaller de cela pour que sans cesse et encore, j'ai la force par sa grâce de monter à la maison de l'Éternel, année après année, comme Anne. Les années où il y a la guérison de la stérilité, mais aussi toutes les autres années où il n'y a pas la guérison de la stérilité. Anne n'est pas restée chez elle, elle est montée chaque année. Les années où il y a eu la guérison de la stérilité, mais les autres années où il n'y avait pas la guérison de la stérilité, le texte nous dit que chaque année, le scénario se reproduisait la même chose. Et je vous invite à reproduire ce scénario de rencontre transformatrice avec Dieu dans vos circonstances, les années de stérilité comme les années où la stérilité est transformée par Dieu, est rencontrée. Et cela nous dit que c'est permanent. C'est-à-dire, non seulement jusqu'à notre dernier souffle, mais au-delà de notre dernier souffle. Et c'est la seule chose qu'on peut dire. Au-delà de notre dernier souffle, c'est la puissance transformatrice de Dieu dans une relation avec nous. Cela, c'est la seule chose qui passe la mort. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, c'est bien plus glorieux encore. Amen.